Mais ce que je réalise, c'est que quand je suis ici comme ça, j'ai plus de difficultés à regarder les bien-aimés de ce côté. Alors vous allez me pardonner si vous remarquez que je ne vous regarde pas trop tôt. Je vais essayer. La paix du Seigneur soit avec vous, frères et sœurs.
Amen.
Prions. Père, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom parce que ta parole existe. Ta parole existe pour nous réconforter. Elle existe pour nous enseigner. Elle existe pour nous encourager, nous fortifier, nous instruire. Merci pour ta parole, qui est, selon ta parole, une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Fais que nous puissions manger la nourriture de ta parole aujourd'hui, avec joie et surtout avec reconnaissance. Bénis-nous, ouvre les yeux de nos cœurs et rends-nous réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Eh bien, alors la régie va s'arranger avec ça pour nous. Nous sommes toujours à ce sujet qui touche ce topic qui s'appelle la gloire de Dieu. Alors, le sujet, la réalité de la gloire de Dieu n'est pas séparable, eh bien, du thème central que frère Adouin n'a pas cessé de marteler pour nous. Rendons gloire à Dieu, ou du moins glorifions Dieu dans tous les aspects de notre vie. Alors, si vous remarquez bien, le mot-clé demeure la gloire de Dieu. Que ce soit dans la réalité de la gloire de Dieu, que ce soit dans rendons gloire à Dieu, eh bien, nous sommes toujours dans le thème. Mais j'ai expliqué aussi un peu la démarche. Hein? Nous avions commencé par définir eh bien, la gloire de Dieu. C'est de là que nous sommes partis. Et après, j'ai attiré votre attention sur la réalité de la gloire de Dieu, particulièrement dans son essence. J'avais continué à parler de l'essence de la gloire de Dieu, mais également comment la gloire de Dieu se fait jour, comment la gloire de Dieu est-elle perceptible, eh bien, à nos yeux spirituels. C'est ça le sens de la démarche, et vous verrez, à mesure que nous avançons dans l'année, où est-ce que le Saint-Esprit va nous conduire dans le traitement, eh bien, de ce thème fondamental. Et en parlant de la réalité de la gloire de Dieu, la semaine passée, dimanche presque à pareille heure, eh bien, j'avais attiré votre attention sur ce passage extraordinaire et qui est situé dans l'évangile de Jean au chapitre 5, les versets 1 et à continuer. Nous avons vu eh bien, la situation de cet homme et qui était malade, dit la Bible, depuis 38 ans. Et comment le Seigneur a été ému de compassion et il était attiré en visitant et la piscine de Bethesda, les abords. Et comment, quand il voyait un grand nombre des malades qui étaient couchés, et comment il était attiré par la situation de cet homme. Et je vous avais dit qu'il y avait un enseignement à ce point du passage. Le fait qu'il y a plein de boiteux, il y a plein d'aveugles, il y a plein de paralytiques, il y a plein de malades. Et ils attendaient quelque chose qui n'était pas certain. C'est qu'un ange remue, fait bouillonner l'eau de la piscine et celui qui se jette en premier, il aura la guérison. Alors, je vous ai dit, nous ne savons pas dans quelle mesure cette croyance en la vertu thérapeutique des eaux de Bethesda pouvait se justifier ou pas. Mais ce que je vous avais dit, c'est que c'est ce que ces gens-là espéraient, c'est ce qu'ils croyaient. Et lorsque Jésus a approché cet homme, parce que c'était clair dans son agenda qu'il allait le guérir, qu'il était pour le guérir, qu'il était venu pour le guérir, et lorsqu'il a approché cet homme pour lui demander « Est-ce que tu veux être guéri ?» Eh bien, vous vous rappelez l'histoire, l'homme a raconté son calvaire au Seigneur en lui disant « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Et alors, le Seigneur Jésus, il a dit à l'homme « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Mais ce que nous comprenons, c'est que Jésus est venu pour cet homme ce jour-là. J'ai attiré l'attention du peuple de Dieu sur le fait que, avec Dieu, nous avons chacun un jour. Un jour où Dieu nous visitera. Je vous ai dit aussi que le jour que Dieu met à part pour vous visiter, il n'y a personne qui peut empêcher que ce jour arrive. Et une fois que Jésus décide de le faire, il le fera parce qu'il contrôle la création dans son ensemble. Mais j'avais attiré votre attention aussi sur le fait que cet homme a su coopérer avec Jésus dans la manifestation de sa gloire. Parce que lorsque Jésus lui a dit « Prends ton lit et marche », il n'était pas encore guéri. Bien sûr, dans le plan de Dieu, il était déjà guéri, mais il n'avait pas encore conscience de sa guérison. Mais il a fait ce que Jésus lui a dit de faire, malgré que cela pouvait lui paraître absurde, il a obéi. Eh bien, ce que nous comprenons par là, c'est que le peuple de Dieu est appelé à coopérer avec Dieu pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Il peut le faire d'autres fois sans notre coopération. Il peut le faire, mais c'est de façon exceptionnel qu'il le fait comme cela. J'ai toujours évoqué l'exemple de l'apôtre Paul. Saint Paul est venu au Seigneur, eh bien, dans sa tête à lui, c'était la dernière chose qu'il ferait. Il a été exposé à maintes reprises à l'évangile de grâce et il n'a pas accepté l'offre de salut que le Seigneur lui avait faite. Mais Dieu l'a saisi et sur le chemin de Damas, contre son gré, contre sa volonté, et il a coopéré avec Dieu par la suite. Mais habituellement, la façon dont Dieu travaille, c'est avec la participation de ses enfants. L'autre conclusion que j'avais tirée, c'était de dire que si cet homme a été visité par le Christ, et le Christ lui a donné l'occasion de refaire sa vie après 38 ans de misère, de calvaire, nous sommes venus à la conclusion que Dieu est un Dieu d'opportunité. Parce que avant la réhabilitation de cet homme, il n'y avait aucun espoir de développement personnel, il n'y avait aucun espoir de développement social. Mais dès l'instant où il a recouvré sa santé, tout lui était permis. Le chemin de la vie était ouvert devant lui. Contrairement au fait que quand il essayait de se jeter dans la piscine, tout le monde passait avant lui, ou bien celui qui était plus agressif passait avant lui, mais le Seigneur a réglé son problème. Ce que nous avions à tirer comme conclusion de cet aspect-là du texte, c'est que ceux qui sont aujourd'hui paralysés, j'avais bien dit, ceux qui sont aujourd'hui paralysés dans l'Église ou en dehors de l'Église, ceux qui sont confus, ceux qui sont dans l'amertume, ceux qui sont dans la tristesse, ceux qui ont des conflits non résolus dans leur vie, dans leur cœur, ceux dont la vie est dysfonctionnelle sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan spirituel, ont intérêt à confier leur vie à Jésus. Alors, c'est la troisième conclusion que nous avions tirée. La quatrième et dernière conclusion que nous avions tirée et de ce texte, c'est que le fait que l'homme n'avait effectué aucune démarche auprès de Jésus pour lui demander de le guérir, sa faveur, et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, et que c'est vers lui que Jésus est allé. Et je vous avais expliqué que la doctrine de l'élection était, eh bien, à soupçonner dans ce passage. Et ce que nous comprenons avec saint Paul en Éphésiens, c'est que ceux qui sont élus pour être enfants de Dieu, ils n'ont qu'une responsabilité, à savoir donner gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'une autre histoire aussi riche en enseignement que cette histoire que nous trouvions la semaine passée dans l'Évangile de Jean. Aujourd'hui, nous allons regarder dans toujours l'Évangile de Jean, Jean chapitre 9. Nous allons voir que Jean chapitre 9 est aussi un passage où le peuple de Dieu puisse trouver des éléments qui nourrissent son âme, sa foi, en ce qui a trait à la manifestation de la gloire de Dieu. Suivez bien le passage, vous allez voir cela. Jean chapitre 9, les versets 1 à 8. Toujours une histoire qui met en évidence la réalité de la gloire de Dieu. Jean chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, verset 3, ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, verset 7, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Daigne le Seigneur bénir sa parole. Les disciples ont posé cette question. Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Cette question ne relève pas du hasard. Elle s'inscrit dans une croyance bien ancrée, une croyance certes erronée, mais bien ancrée dans la tête de ces gens-là. Ils ont reçu un enseignement biaisé. Suivant cet enseignement, la maladie est le résultat direct du péché personnel. C'est un enseignement qui a été dispensé par les chefs religieux de l'époque. Je ne m'attarderai pas là-dessus. Je pourrais prêcher sur ça seulement. Mais ce n'est pas sur ça que je vais prêcher, c'est juste autour là. Les disciples partent de l'idée, frères et sœurs, que puisque cet homme est né aveugle, s'il était devenu aveugle, il n'aurait pas posé cette question, remarquez bien. C'est parce qu'il est né aveugle qu'il pose cette question-là, à savoir qui a péché. C'est-à-dire que il ne pouvait pas pécher alors qu'il était dans le sein maternel. Vous comprenez l'histoire? Vous comprenez? Il ne pouvait pas pécher alors qu'il était dans le sein maternel. Si, malgré le fait qu'il ne pouvait pas pécher quand il était dans le ventre de sa mère, parce qu'il est né aveugle, donc quand il est dans le ventre de sa mère, il était aveugle, il doit y avoir un coupable. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Il doit y avoir un coupable. Alors, c'est là l'origine, hein, et le sens de leur question. Mais un peu comme d'habitude, Jésus ne veut pas tomber dans ses travers. Jésus n'a pas de temps pour ses travers. Il n'a pas de temps pour rentrer dans ce panneau avec ses disciples. Jésus veut regarder les choses avec des yeux spirituels. Il veut aller beaucoup plus loin. Il veut transcender cette espèce de mesquinerie que les Juifs ont affichée, ou du moins que ses disciples ont affichée. Le Seigneur va, comme d'habitude, il va rehausser le débat. Il va élever le niveau du débat. Il va repositionner les enjeux. En d'autres termes, si on cherche un coupable, Jésus n'est pas là, il s'en démarque. Au verset 3, il va remettre les pendules à l'heure. Il dit aux disciples, écoutez bien, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quand Jésus dit, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, il veut dire tout simplement afin que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Comprenez bien, chers amis, ce que Jésus dit ici, ce n'est pas que l'aveuglement de cet homme soit nécessairement causé par Dieu, loin de là. Loin de là. Ce serait altérer les attributs de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que son aveuglement, sa cécité physique, allait être utilisée par Dieu de manière à faire briller la lumière de la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église est là?
Amen.
Que Dieu allait utiliser sa cécité, sa situation, que Dieu n'a pas créée, de manière à ce que l'œuvre de Dieu soit reconnue dans la vie de cet homme. À la lumière de ce texte, frères et sœurs bien-aimés, je comprends une chose. Je comprends une chose. C'est que, en tant que chrétien, quand il y a des situations difficiles qui surviennent dans ma vie, quand il y a des problèmes qui surviennent dans la vie de ma famille, ce n'est pas parce que je suis pas chanceux du tout ou malchanceux que cela m'arrive. Ce n'est pas parce que nécessairement je suis coupable de quelque faute que ce soit. Et alors, quand ces situations surviennent, je n'ai pas besoin, en tant que chrétien, ni de me culpabiliser si je suis aligné sur la volonté de Dieu, si je suis aligné sur sa parole. Je n'ai pas besoin ni de culpabiliser quelqu'un, à la lumière de ce texte, je dois apprendre à comprendre que cette situation, si je ne pas fourré même côté, je ne pas fourré même, si je ne pas fourré bouche pendant la parole, je ne pas fourré bouche moins, si je ne pas aller côté, je ne pas aller, en tant que chrétien, il faut être capable de gagner assez de courage, assez de foi, assez de clairvoyance, assez de sagesse, assez de clarté d'esprit pour me dire, ce doit être pour la manifestation de la gloire de Dieu. En d'autres termes, Dieu a permis que cet homme soit aveugle pour amener l'Église, pour amener les familles d'Église, pour amener les chrétiens à comprendre que, eh bien, le fait de naître aveugle ne saurait remettre en question la bonté de Dieu. Le fait de naître aveugle ne saurait remettre en question la grandeur de Dieu. Le fait, eh bien, de naître aveugle ne saurait remettre en question la puissance de Dieu. En sorte que si aujourd'hui, vous éprouvez une maladie quelconque, une difficulté quelconque dans votre vie, peu importe la nature de cette difficulté, à l'église, dans le ministère, dans la famille, dans votre vie financière, professionnelle, économique, relationnelle, et j'en passe, si vous êtes aligné sur la parole de Dieu, ne vous tracassez pas outre mesure. Ne vous blâmez pas et ne surtout ne blâmez personne. Sache de préférence que votre situation est là. Dieu va l'utiliser pour faire éclater sa gloire, frères et sœurs. Jésus a dit que la situation de cet homme, qui paraissait à lui et à tout le monde irréversible, était une opportunité pour lui d'être glorifié. C'est-à-dire, c'était une occasion pour Dieu, eh bien, de montrer qui il est. Une occasion pour Dieu de montrer ce qu'il peut faire. Arrêtez de vous attarder trop sur le pourquoi de vos problèmes. Arrêtez de vous attarder trop sur le pourquoi de vos difficultés. Je ne dis pas, j'ai prêché en début d'année, qu'un inventaire, qu'une évaluation personnelle dans votre relation, dans vos bilans n'est pas nécessaire. Mais quand vous avez fini de faire votre bilan, si vous réalisez que vous êtes aligné à Dieu, eh bien, vivez, parce que c'est une occasion pour Dieu de faire éclater sa gloire. Le pasteur Sanders, j'ai déjà raconté cette histoire vraie à plusieurs personnes. Le pasteur Sanders, un pasteur américain que j'ai connu, il était le trésorier de la mission de l'église où j'ai été formé. C'est un homme dynamique, un homme au grand cœur, frères et sœurs, qui aimait beaucoup l'église du Seigneur, en particulier les églises et antillaises, caraïbéennes, dont mon église faisait partie. Subitement, le pasteur Sanders a reçu un diagnostic de cancer du pancréas. La nouvelle était tombée dans mon église, dans les autres églises de la mission, comme une bombe atomique, frères et sœurs. Cela a été toute une tragédie pour cette famille et pour les églises de la mission qui étaient supportées habituellement par la mission parce que lui, il organisait des levées de fonds un peu partout aux États-Unis et il dépensait des fortunes et son temps, son énergie pour trouver de l'argent pour soutenir les églises. Alors vous comprendrez que quand cette nouvelle est arrivée, les églises étaient vraiment eh bien, en détresse à l'annonce de la nouvelle, de la maladie de pasteur Sanders. Eh bien, les responsables de la congrégation, de la mission de l'époque, ils ont propagé la nouvelle à travers toutes les églises de la mission, dont mon église. Et ce que les églises ont fait, frères et sœurs, les églises ont mis en place des chaînes de prière. Je me rappelle comme si c'était hier, on prenait du temps spécialement pour intercéder pour le pasteur Sanders et sa famille. On intercédait à travers lui pour la mission parce qu'il était un pilier eh bien, de la Caribbean Baptist Church de Texas à l'époque. Les églises, frères et sœurs, se sont rapprochées de Dieu Ils ont prié pour Pasteur Sanders pendant des mois. Vous savez ce qui est arrivé? Pasteur Sanders était guéri. Pasteur Sanders était guéri. Et pour tout le monde, c'était un miracle. Les médecins, il y en avait des médecins qui étaient chrétiens aussi, les infirmiers, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas chrétiens. Ils ont vu Dieu à l'œuvre. Ils ont vu Dieu travailler dans la vie de la mission, dans la vie de ce serviteur. Ils ont vu Dieu travailler dans la vie de cette famille. Et ils ont dit, nous n'aurions jamais pu nous attendre à voir une telle guérison aussi rapidement. Dieu a travaillé, frères et sœurs. Dieu ne donne certainement pas toujours une guérison miraculeuse à nos maladies, à nos problèmes. Il ne donne pas toujours une solution miraculeuse. Mais le pouvoir de guérir demeure là. Amen. Le pouvoir de solutionner demeure là. Et je crois que, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est un témoignage que je donne à plusieurs reprises. Si Dieu a guéri le pasteur Sanders, il peut toujours faire le même miracle aujourd'hui. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Revenons au texte, versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retournant, voyant clair. » Autrement dit, pour Jésus, il n'y avait pas grand-chose là. Ce texte me suggère tout un ensemble d'enseignements, de leçons, dont la première. C'est qu'il y a des moments dans ma vie, dans ta vie, où les choses paraissent tellement difficiles que nous pouvons demander, est-ce que Dieu est à l'œuvre? Suis bien. Est-ce que Dieu est à l'œuvre? Suis bien. Nous avons déjà la réponse à travers ce texte. Mais l'expérience que chaque chrétien a déjà faite à Dieu donne la réponse. La réponse est que oui, Dieu est à l'œuvre. Vous ne le voyez pas à l'œuvre, vous allez voir. Le texte est là. Vous ne le voyez pas à l'œuvre. C'est vous qui ne le voyez pas à l'œuvre. D'abord, le plus souvent, Dieu est à l'œuvre avant que vous voyiez le résultat de l'œuvre de Dieu. Le texte nous le dit, vous allez voir ça. Dieu est toujours à l'œuvre. Et c'est ce qui fait toute la beauté du service de Dieu. C'est ce qui fait toute la beauté de la vie chrétienne, frères et sœurs. Le fait de savoir que nous servons un Dieu qui est toujours à l'œuvre. Où serions-nous? Où serait l'Église? Où seraient les familles? Où serait la jeunesse? Si Dieu n'était pas toujours à l'œuvre dans la vie de ses enfants, frères et sœurs. Nous sommes un peuple béni, frères et sœurs, du fait que notre espérance est en Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est toujours au travail. Vous allez voir, je n'invente rien. C'est le texte qui dit que Dieu était à l'œuvre. Figurez-vous l'oratoire. Figurez-vous. Un homme est aveugle. Un aveugle né. Regardez bien. Cet homme n'avait aucune espèce d'idée de ce que cela voulait dire de voir, de contempler la beauté de la création,
la gloire de Dieu dans la création. Quand le psalmiste dit que les cieux racontent la gloire de Dieu, il ne peut pas voir la gloire de Dieu dans les cieux parce qu'il est aveugle. En plus d'être aveugle, et par le fait même, cet homme, frères et sœurs, vivait dans une condition exécrable, une condition désespérée, une condition misérable. Toute sa vie, il a vécu dans les ténèbres de l'aveuglement. Comprenez bien, quand les yeux sont fermés, vous voyez noir. Il a vécu dans les ténèbres de l'aveuglement physique. C'était un mendiant qui vivait de la générosité des gens. Et alors, frères et sœurs, il n'avait aucun espoir d'être guéri. Et pourtant, Jésus l'a guéri. J'ai dit que l'homme qui était aux abords de la piscine de Bethesda n'avait pas fait de démarche auprès de Jésus pour être guéri. C'est aussi vrai pour cet homme. Hein. Il y en a d'autres qui font des démarches. Mais c'est aussi vrai pour cet homme. Il n'a effectué aucune des démarches. Il n'a pas demandé à être guéri. Et pourtant, Jésus l'a guéri. Fois passée, je recevais un groupe de frères et sœurs à la maison. Il y en a un qui disait, bon Dieu, non seulement qu'a fait des choses, mais souvent, il n'attend même pas que nous lui demandions de faire des choses. Vous avez oublié ça, l'Église? Il y a de ces choses que Dieu fait pour toi dans ta vie. Si c'est toi qui devais les lui demander, tu ne les aurais jamais. Parce que ces choses-là te dépassent. Ce sont des choses qui dépassent l'imagination, qui dépassent ta prétention. Tu ne peux même pas les rêver et les demander à Dieu. C'est le cas de cet homme. L'aveugle est guéri. Il doit y avoir une raison. Il n'a pas effectué de démarche. Mais il est guéri. Vous savez pourquoi il est guéri? Il est guéri. Je n'ai pas oublié ce que j'avais promis. Il est guéri parce que depuis l'éternité, il était question qu'il soit guéri. Amen. Voilà ce que votre pasteur appelle Dieu est à l'œuvre ou pas même qu'on est. Hein. En plus, il faut un problème dans le privé. Madame accuse Marie, comme dans les gens de l'Éden. Marie accuse Madame, fidèle accuse ma sœur. Et pourtant, Dieu va utiliser des bagages qui vont faire pour toi pour faire les merveilles. Est-ce qu'on l'a? Amen. C'est à cause de toi. Tu n'as pas économisé. Peut-être vrai. Mais parfois, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de nouvel dans ta vie. C'était une décision qui a été arrêtée dans le ciel. Ça qu'a réglé là, l'aller au-delà de cet homme, au-delà de sa simple personne, c'est arrivé parce que Dieu projette de l'utiliser pour la manifestation de sa gloire. C'est-à-dire que cet homme aura la chance de voir la gloire de Dieu en Jésus-Christ, une fois que ses yeux sont ouverts, mais également ceux qui sont autour de lui vont voir la puissance de Jésus, la puissance de Dieu à travers l'acte de guérison que Jésus a produit. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? J'aimerais vraiment vous conseiller en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que frère, en tant que sœur, à regarder les temps difficiles avec ces yeux-là. C'est fort possible que ce soit pour que la gloire de Dieu brille. Si tu le dis, il y a un paquet de problèmes qui est réglé. Si tu te dis cela, tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas faire des contrefaçons pour régler ton problème. Tu ne vas pas accuser personne. Tu vas gémir pour dire, Seigneur, hâte la manifestation de ta gloire. Car je sais que c'est pour ta gloire que ce problème est là. Amen. Tu vas dire comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Parce que je sais que c'est pour ta gloire que le problème ça là. Parce que tout ça dit, me fais-yo, moi fais-yo. Ou dit, ne pas mélanger l'évangile. Et malgré tout, mon problème, je comprends par ta parole que c'est pour la manifestation de ta gloire. Alors, hâte ta gloire. Le peuple de Dieu a besoin d'apprendre à prendre Dieu au mot, frères et sœurs. Ces passages sont écrits, c'est pour notre enseignement, notre instruction. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Pourquoi ces textes sont d'un côté, puis notre vie est d'un autre côté, frères et sœurs? Quand viennent les problèmes, pourquoi ne nous référons-nous pas à ces textes-là? C'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est à cela que sert la prédication. C'est à nous référer à la sagesse de Dieu pour, eh bien, adresser les temps difficiles. C'est pour la manifestation de sa gloire. Ceux qui étaient autour de lui, ils ont compris, ils ont vu d'ailleurs, ils ont constaté qu'il est guéri. Quand Jésus a dit que c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu, tout le monde l'a su. Quand il est guéri, tout le monde a su. Lui, il l'a su. Mais dans l'éternité de Dieu, il était déjà guéri. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je vous ai déjà enseigné là-dessus. C'est biblique, hein? C'est foncièrement biblique ce que je vous ai dit. Quand Dieu, regardez bien, Jésus dit, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ça a été vrai de toute éternité. Ce n'est pas quand il le dit que c'est vrai. Ce n'est pas que Jésus dit, ah, ok, je change d'idée, je vais faire ça comme ça. Non. Dès l'éternité, dès avant la fondation du monde, Dieu savait qu'il y a quelqu'un qui est très aveugle et qu'il utilisait son aveuglement pour la manifestation de sa gloire. Amen. C'est bien important de comprendre cette relation qu'il y a entre le ciel et la terre. J'ai déjà attiré votre attention sur cette relation. Là où est bon Dieu délivre, là, ce n'est pas l'essor délivre, tu es délivré déjà depuis dans le ciel là. Allez, et puis toi, c'est beau, ouais, ça. Quand Dieu donne l'ordre à Moïse de construire le tabernacle, il dit, fais-le suivant le modèle qui est dans le ciel là. Modèle tabernacle matériel là, le modèle du tabernacle physique était déjà érigé dans le ciel là. Là, le tabernacle physique était déjà une réalité dans le ciel avant qu'il soit une réalité physique sur la terre, frères et sœurs. Le plan de guérison, le plan de sauvetage, le plan de délivrance de l'humanité que Dieu a conçu était conçu dans le ciel avant qu'il soit matérialisé sur terre. Ce n'est pas vrai juste pour ces choses-là, c'est vrai pour tous les problèmes que Dieu décide de résoudre, frères et sœurs. C'est en haut qui donne à la terre à en bas. Ce n'est pas en bas qui donne en haut, frères et sœurs. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi quand les gens cherchent, s'ils ne s'appuient pas sur Dieu, ils ne trouveront jamais. Parce que si en haut, pas bas, la terre va qu'à joindre. Voilà pourquoi aussi quand tu es connecté en haut, peu importe ce que les hommes font ici-bas, ils ne peuvent pas t'atteindre. Parce que c'est en haut que tout se joue. En bas, c'est une question d'atterrissement. Mais les confessions, l'usine de délivrance est dans le ciel, frères et sœurs. Là, c'est la finition que Dieu fait sur terre. Alors, il a vu, parce que il était de la volonté éternelle de Dieu qu'il voit. Deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention sur ce texte, c'est que comme l'infirme de Bethesda, cet homme a coopéré avec Dieu. Il n'y a pas de délivrance si le peuple de Dieu ne coopère pas avec Dieu. Il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas d'obéissance. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? J'ai lu un texte, mais il y en a d'autres. Exode 13, 14, 15, 16. Vérifiez de ce côté-là. Je ne me rappelle pas exactement. On ne va pas le lire. Où Dieu a manifesté sa gloire alors que le peuple Israël était rebelle contre Dieu. J'ai vu cela. Et Dieu a précisé que c'est sa gloire qu'il va manifester. Quand Dieu leur a donné à manger du pain et de la viande. Mais c'est rare, c'est exceptionnellement que c'est arrivé. Et on dit c'est exceptionnellement, Dieu l'a fait parce que Abraham, leur père, avait déjà obéi à Dieu. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? En sorte que Dieu ne fait pas éclater sa gloire avec, eh bien, sans la coopération de son peuple. Il a coopéré avec le Seigneur quand il lui a dit, va. Dans va, frères et sœurs, il n'y a pas encore de guérison. Quand Jésus dit va, cet homme n'est pas encore guéri. Quand il dit, et lave-toi, il n'y a pas encore de guérison. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça, c'est la partie, la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Ne calomnie pas les autres. Ne parlez pas mal des autres. Tout ce que vous savez là. C'est ça la partie va et lave-toi. C'est la partie enseignement. L'obéissance que Dieu attend de son peuple, de chaque famille, de chaque chrétien. Va et lave-toi. Pas encore de guérison. Au réservoir de Siloé, pas encore de guérison. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il y a là, pas encore de guérison. Parce qu'il peut s'arrêter en chemin. Cela va, plus ou moins. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Ça commence à s'en venir. Cela va. Et s'en retourna. C'est alors que le texte dit, voyant clair. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Le peuple de Dieu est appelé à obéir à Dieu s'il veut voir la manifestation de la gloire de Dieu. Cet homme a écouté. Souvent, Dieu a besoin d'une réponse de foi pour faire éclater sa gloire. Je répète, souvent, Dieu a besoin d'une réponse de foi ferme pour faire éclater sa gloire. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, mais à lire la parole de Dieu, je comprends que quand Dieu dit de faire quelque chose, eh bien, les enfants de Dieu ont juste besoin d'obéir à Dieu. Ça peut paraître, comme je le disais la fois passée, un peu ridicule. Les instructions de Dieu peuvent sembler inappropriées aux circonstances. Comment ça se fait? Et plein de questions peuvent être posées, peuvent se poser. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il était dans une situation si difficile. Cet homme n'a posé aucune question. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Lorsque nous regardons quelques épisodes de la manifestation de la gloire de Dieu, nous ne voyons aucune réticence, mais nous voyons toujours une instruction, un ordre. Luc 17, 12 à 14, vous lirez à la maison. Il y a des lépreux qui se sont approchés. Jésus a voulu leur faire grâce. Vous savez comment Jésus leur a fait grâce? Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Juste ça. Juste ça. Quel ordre? Quelle instruction? On vous demande d'être guéri, vous nous dites d'aller nous montrer au sacrificateur. Le texte dit, en y allant, ils étaient guéris. Ah, Matthieu 12, verset 9 à 13, il y en a plein. Un homme à la main sèche, frères et sœurs. Quelle idée bizarre. Quelle instruction, quel ordre Jésus va donner. Un homme à la main sèche, pas définition, frères et sœurs. Il ne peut pas étendre sa main. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Matthieu 12, verset 9 à 13. Jésus dit, étends ta main. Vous vous rappelez? Et quand l'homme fit l'effort, sa main fut guérie. Nombre 21, verset 4 à 8. Les enfants d'Israël, après avoir été mordus par des serpents venimeux, ils ont dû, à l'ordre divin, regarder la perche sur laquelle était placé le serpent. Et quand ils vont regarder, une fois qu'ils ont regardé, et là, ils seront guéris. J'ai déjà entendu des gens qui disent, moi, quand tous mes problèmes vont être résolus, je vais me convertir. J'ai telle chose à régler avant de me donner au Seigneur. J'ai entendu ça dans l'évangélisation. Un peu plus en Haïti qu'ici, mais ça se dit encore. Je vais tout mettre en ordre et après je viendrai à Jésus. Mais ces gens ne comprennent rien. C'est pendant que tout est dans désordre dans ta vie que tu as besoin de venir à Jésus. Car c'est Jésus qui peut mettre de l'ordre dans ta vie. Ma vie était remplie de désordre. Je buvais, je courais partout. Mais Jésus a remis de l'ordre dans ma vie. Troisièmement, je vais vous laisser. Cet homme a été choisi pour être guéri de sa cécité physique pour la même raison que l'homme de la piscine de Bethesda a été choisi. C'est-à-dire pour que tous ceux qui étaient là puissent voir, eh bien, que Jésus est disposé à déployer cette même machine de gloire, cette même machine de puissance, cette artillerie lourde de sagesse, non seulement pour guérir de la cécité physique, mais également pour guérir de la cécité spirituelle, frères et sœurs. Le texte nous instruit à cela aussi. Jésus est en train de dire à ces gens-là que la vraie guérison qui est disponible pour tous et chacun, c'est la guérison spirituelle. C'est cette guérison que vous et moi, nous avons reçue de la part du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est cette guérison qui a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Et non seulement cette guérison a été annoncée, Dieu a su dire par la bouche de ses saints prophètes que c'est par Jésus-Christ, son envoyé, parce qu'il a parlé de l'œuvre de celui qui m'a envoyé dans le texte. Tandis qu'il fait jour, je dois m'appliquer à faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. C'est de cette œuvre de guérison spirituelle que Jésus parlait. Dans le psaume 146, que voyons-nous? L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ésaïe 34, verset 4 à 5. Le prophète Ésaïe continue de dire que, eh bien, les guérisons physiques, ce sont des signes des guérisons spirituelles. Ésaïe va jusqu'à associer la guérison spirituelle, de la cécité spirituelle, avec l'œuvre du Messie, frères et sœurs. Il dit, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Regardez le verset 5. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, avec le royaume de Dieu venu sur terre en Jésus-Christ, eh bien c'est la délivrance de la condamnation éternelle du péché. C'est la délivrance de la mort, c'est la délivrance de la cécité spirituelle. Verset Ésaïe 42, verset 6 à 8, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » 42, je ne sais pas si c'est prêt. « Pour le salut, et je te prendrai par la main. » Ce n'est pas terminé. « Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » Ah, ça s'en vient. « Pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations. Et qu'est-ce que Jésus a dit? « Je suis la lumière du monde. » Je suis la lumière du monde. Donc, Jésus est en train de dire que la prophétie d'Isaïe est en train d'être accomplie par moi, par ma puissance, par ma disposition, par mon obéissance à mon Saint-Père, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est pas terminé, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voyez-vous ce que Ésaïe fait dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu. Notez ça, on fait un peu de théologie aujourd'hui. La gloire de Dieu, la lumière de Dieu, la délivrance de Dieu, la puissance de Dieu, eh bien, s'inscrivent dans un seul et même registre, c'est-à-dire le registre du royaume de Dieu, le registre messianique. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? En Jésus, c'est toujours une question de lumière. En Jésus, c'est toujours une question de délivrance. En Jésus, c'est toujours une question de guérison, soit physique ou spirituelle. Et par le fait même, c'est toujours une question de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu que je vous ai dit, qui était cachée, enveloppée dans la colonne de feu, le jour, la nuit. Cette gloire qui était cachée dans une colonne de nuée le jour, eh bien, elle est révélée en la personne du Fils de Dieu. C'est ce que Jésus entendait par... Cette maladie, cette cécité physique est pour la manifestation de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est plus une question de gloire enveloppée dans une colonne de nuée. Frères et sœurs, Jean va parler de Jésus comme étant la lumière du monde. Laissez-moi vous dire, être éclairé par la lumière de Dieu, C'est être éclairé sur nos choix. C'est être éclairé sur nos décisions. C'est être éclairé sur la pensée de Dieu, sur les voies de Dieu, sur la volonté de Dieu. L'Église est appelée la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et Jésus a dit de l'Église qu'elle est la lumière du monde. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gloire de Jésus, la gloire de Dieu qui résidait dans le tabernacle, elle réside maintenant dans l'Église. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Si le monde connaissait sa Bible, le monde nous questionnerait chaque jour. Quand le monde nous regarde, le monde dirait, où est la lumière? Où est la gloire de Dieu qui est dans ta vie? Christ réside dans l'Église. Il vit en nous à travers son Saint-Esprit. La raison, c'est pourquoi? C'est pour lui rendre gloire en retour. Est-ce qu'on est là? Rendre gloire à Dieu, c'est laisser briller la gloire de Dieu dans notre vie. Paul l'a dit. Il nous appelle à la louange de sa gloire. Il nous a prédestinés, il nous a élus à la louange de sa gloire. La responsabilité du peuple de Dieu, ça va être ça les conclusions, presque dimanche après l'autre, pendant quelques temps. La réponse, Dieu révèle sa gloire et Dieu s'attend à une réponse par rapport à la révélation de sa gloire. Et la réponse, ce n'est pas le monde qui va donner cette réponse-là. C'est à l'Église de donner cette réponse à Dieu, frères et sœurs. Comment, pasteur? Mais en vivant pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça vit? Qu'est-ce que c'est vivre pour la gloire de Dieu? Mais je vous dis, ça s'en vient, je vous le dirai. Je développerai cela. Mais en attendant, ça veut dire vivre en conformité avec la personne de Dieu. Amen. Vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Amen. Vivre en conformité avec les plans de Dieu. Gérer tracas, gérer problèmes, gérer difficultés, gérer richesses, gérer bénédictions selon la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Voilà ce qu'on appelle vivre selon la volonté de Dieu. Voilà ce qu'on appelle glorifier Dieu, frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Et que le Seigneur nous fasse la grâce de laisser briller sa gloire dans notre vie.